autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, avec Hugo Violas à la réalisation pour ressortir de nos coquilles et nous préparer à une véritable odyssée, un voyage à remonter le temps, le climat, l'environnement et les évolutions du milieu marin sur les traces d'étonnants bivalves, mieux connus sous le nom de coquilles Saint-Jacques, les délicieuses coquilles Saint-Jacques, qui ne se contentent pas de nous régaler, de nous guider sur le chemin de Compostelle ou de servir de cache-sexe à la Vénus de Botticelli. Ces mollusques ont bien d'autres tours dans leur coquille. C'est ce qu'a découvert, presque par hasard, notre invité, le chercheur Laurent Chauveau, plongeur sous-marin, biologiste, écologue et aventurier, qui les étudie, les coquilles Saint-Jacques, sur toutes les mers du globe, depuis la rade de Brest jusqu'au port de Nouadhibou en Mauritanie, en passant par la Nouvelle-Calédonie, le Chili et jusqu'en Arctique. Laurent Chauveau s'est mis à l'écoute des coquilles Saint-Jacques, sentinelles de l'océan, mais aussi musicienne. Il nous avait fait partager ses découvertes inouïes, hein, à tous les sens du terme, en janvier dernier, ici même dans ce studio, autour de la question « Pourquoi écouter les coquilles Saint-Jacques ?» Bienvenue pour réouvrir toutes grandes nos oreilles. Bonjour Laurent Chauveau.
Bonjour.
C'est à vous que l'on doit ces sons que vous avez intitulés sur BeBest, votre SoundCloud intersocial, c'est ça, intersocial Molène. De circonstance, en cette période, on va dire, un peu agitée de grève et d'alliance intersyndicale. Qu'est-ce que c'est, cet intersocial Molène ?
En fait, c'est on entend un chorus de bruits mélangeant des bruits d'eau, des bruits de vagues, avec un ensemble d'invertébrés autour de l'île de Molène, qui émettent des bruits, les oursins, des crevettes claqueuses, des araignées font du bruit, quelques phoques dans le lointain. Et c'est ce chorus qui a été enregistré il y a maintenant 3 ans avec l'école d'ingénieurs l'ENSTA à Brest.
Parce que vous ne plongez pas justement pour enregistrer cette intersociale Molène ou bien vos amis les coquilles Saint-Jacques, les homards ou les araignées de mer, on vous les fera entendre aussi, hein, juste pour le plaisir, chers amis auditeurs, car elles sont toutes disponibles, hein, sur ce SoundCloud, Laurent Chauveau, qui est en fait celui du laboratoire international LIA BeBest à l'Institut universitaire européen de la mer à Brest. C'est le plus gros institut de France, où vous êtes directeur de recherche CNRS au LEMAR, donc l'unité mixte CNRS Ifremer et Université de Bretagne occidentale. C'est tout au bout de la rade de Brest que vous étudiez les mœurs, la vie et même les chants de la coquille Saint-Jacques, cette extraordinaire sentinelle de l'océan, pour reprendre le sous-titre du livre génial, franchement, que vous venez de consacrer à la coquille Saint-Jacques, aux éditions de l'Équateur, où l'on découvre avec l'humour un peu rock'n'roll qui vous caractérise, Laurent Chauveau, quelques-uns des secrets pour le moins inattendus de ces coquilles, alors historiennes, climatologues et musiciennes, on va y venir. Mais d'où vous vient cette passion pour les coquilles? Depuis quand avez-vous compris qu'il fallait les écouter, parce qu'elles ont effectivement énormément de choses à nous raconter?
Alors la passion pour les coquilles Saint-Jacques vient d'un contrat, un contrat de thèse, c'est-à-dire qu'un directeur de thèse, là en l'occurrence Gérard Touzeau, avec quelqu'un qui était célèbre à Brest, qui s'appelle Michel Glemaret, qui avait défendu l'intérêt des Bretons après la catastrophe de la Mococadis lors du procès à Chicago. Voilà, ces deux hommes-là me confient un peu par hasard un sujet de thèse autour de la coquille Saint-Jacques, et est née une passion de ces 4 années de recherche en écologie marine centrée sur la coquille Saint-Jacques à Brest.
C'est un travail de... C'était et c'est toujours un sort de travail. Alors, c'est pas vraiment de fourmi ou plutôt de plongeur. Hein. Faut pêcher à 25 mètres de fond au large du château de Brest. Faut remonter tout ça. Faut les étudier. Enfin, c'est colossal, et c'est ce que vous faites depuis combien ? Depuis 30 ans ?
Depuis 30 ans. Et en fait, le début de l'histoire est assez impressionnant, j'imagine, quand on lit cet ouvrage, parce qu'il s'agissait d'étudier les post-larves. Une post-larve de coquille Saint-Jacques, ça mesure 200 micromètres, un cinquième de millimètre.
On imagine
bien que d'aller récupérer des choses qui sont des objets minuscules dans un énorme volume d'eau ou un énorme écosystème comme la rade de Brest, évidemment, ça c'est un pari contre la nature. Et en fait, il s'agit de trier des animaux minuscules, des coquilles Saint-Jacques minuscules, dans des centaines de milliers d'autres invertébrés autour d'elles. Et il s'agit de les compter, de les mesurer. Et en fait, le début de la description du cycle vital d'une coquille Saint-Jacques dans son écosystème commence avec ses post-larves, quand on est benthologue, quand on s'intéresse à ce qui se passe au fond de la mer, évidemment, c'est une aiguille dans des milliers de bottes de foin. Voyez, donc ça impressionne un petit peu, mais on y passe 3 ans, 10 heures par jour. Et au bout de ces 3 ans, on a quelques graphiques qui renseignent sur la question posée au départ.
Et c'est ça, sur la vie des coquilles Saint-Jacques, leur évolution. Alors, c'était d'abord un objet d'études scientifiques, c'est devenu... un allié, hein, c'est le sous-titre de votre livre, Sentinelle de notre planète et de l'océan, archive du temps passé. C'est vraiment devenu quoi ? Un allié, une amie, comment vous les considérez ces coquilles Saint-Jacques ?
Des
trésors. Hein.
C'est devenu un outil scientifique, c'est devenu un allié, c'est un joli terme, un allié, c'est l'animal qui, en archivant des informations, travaille pour nous et finalement... nous apporte des informations à la fois sur ses réactions aux variations de son environnement, et ça nous intéresse beaucoup dans un contexte où les environnements sont en train de changer à toutes les échelles de temps, à l'échelle de la semaine comme à l'échelle de la décennie ou du siècle, ils changent. Donc avoir des informations sur comment un invertébré change ou répond à ces changements, ça nous intéresse. Et évidemment, le plus curieux, on va voir ça, j'imagine, tous les deux, mais cette coquille Saint-Jacques a l'aptitude d'archiver non seulement ses réponses, mais les variations de l'environnement lui-même, les variations de la température, les variations de la salinité, les variations de la quantité de nourriture disponible pour elle, les variations, si vous voulez, même de la vitesse de rotation de la Terre ou les variations des contaminants qu'on veut bien amener à la mer par les rivières ou par nos égouts.
Oui, c'est complètement fascinant et tout ça, ça s'archive dans ces coquilles. On va découvrir comment et pourquoi autour de la question comment étudier, comment écouter les coquilles Saint-Jacques. On va revenir d'abord sur la manière dont elles sont devenues vos alliés, enfin les alliés des chercheurs, des biologistes, des écologues, des historiens, des climatologues. C'est au sens de la question de la philosophe et éthologue Vinciane Després, qui était récemment notre invitée, auteure entre autres de « Que diraient les animaux si les chercheurs leur posaient les bonnes questions ?» à qui vos travaux ont inspiré cette question donc dans la lignée des sociologues Bruno Latour et Michel Calon.
Michel Calon avait à un moment donné fait toute une recherche qui alimentait la théorie des réseaux, notamment qu'il avait mise au point avec Bruno Latour, et dans laquelle il y avait, je vais dire, l'hypothèse ou l'idée qui germait que les coquilles Saint-Jacques travaillaient d'une certaine manière avec ceux qui travaillaient avec elles. Et je vais croiser cette hypothèse avec celle de Jocelyne Porcher qui dit que les animaux... dans la mesure où ils sont, d'une certaine manière, au service des humains. Moi, j'aime bien l'idée d'être au service, parce que je trouve que ça n'engage pas nécessairement des exploitations. Est-ce qu'ils pourraient penser que les coquilles Saint-Jacques, en effet, travaillent avec les humains, notamment quand elles sont sentinelles ou même quand elles nous nourrissent? Est-ce qu'on pourrait parler d'un travail de la part des coquilles Saint-Jacques?
Qu'en dites-vous, Laurent Chauveau?
Alors, surtout pas un travail en termes de pénibilité ni de torture, un travail en termes de service, ça c'est une évidence. Et c'est, le concept est assez ambigu parce qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Constanza, qui était économiste et qui en 1997 a fait une publication retentissante sur les biens et services rendus à l'humanité par la nature. Et il a essayé, ce groupe d'économistes a essayé de chiffrer combien nous rapportait ou quelle était la valeur de la nature en termes de biens et services. Alors, en termes de biens, on peut imaginer la nourriture. En termes de services, là, dans notre cas, il est difficilement chiffrable. Et j'irai un peu plus loin que ça. C'est, on avait bien un animal que l'on a étudié au départ, au début des années 90, parce que c'était de la nourriture. Et elle avait la valeur de la rate de Brest, si on réfléchissait au coquille Saint-Jacques, correspondait à une quantité de nourriture disponible et débarquable pour un marché français de coquille Saint-Jacques à Noël. Donc, on avait un chiffre à fournir. Vous voyez bien que, avec ce que je vous ai dit, cet animal qui est devenu une archive et qui va renseigner sur comment prédire des réponses d'invertébrés lors d'un changement climatique et comment traduire ou témoigner de ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Là, le service, il a du mal à être chiffré.
Il est énorme.
Il est énorme et il est quasiment infini, pas infini, mais... Et voyez bien que ce concept de service, là, est un petit peu ambigu. Mmh. Et la valeur de la nature ou la valeur de cette espèce, si on dit maintenant, on imagine qu'on va mettre le même effort pour décrire la biologie et les services rendus par l'ensemble des invertébrés, il y en a 1000 en rade de Brest, de cet écosystème, on va être dépassé par la connaissance et dépassé sur notre capacité à mettre des chiffres en termes de services et de biens notre capacité va être dépassée.
On voit bien que c'est ambigu cette question, parce qu'en même temps, il y a aussi, on y viendra aussi, la question de la beauté, parce que c'est magnifique.
Et parce que ça, ça ne se quantifie pas.
Et surtout, ça ne va pas changer ça facilement. La beauté d'une coquille Saint-Jacques, si on réfléchit à son modèle mathématique, si on réfléchit à sa grâce ou si on réfléchit à sa symétrie, à sa couleur fauve à l'extérieur et blanc nacré. Et maintenant, si on l'associe continuellement avec Botticelli ou avec des symboles véhiculés par le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, mais on en a d'autres au Mésolithique et au Néolithique, c'est cette beauté-là, elle est assez indépendante de notre niveau de connaissance. Ce n'est pas le cas des services.
C'est vrai. Ouais.
Donc, ces services-là, en plus, ils évoluent. Là, on a un très bel exemple avec cette coquille Saint-Jacques. Ils évoluent en fonction de notre culture, en fonction de notre niveau de connaissance scientifique et en fonction de nos besoins.
Ouais. D'où le titre de votre ouvrage, La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan. Alors, vous l'avez dit, on va l'aborder maintenant. Parmi les services, entre guillemets, qu'elles nous rendent, les coquilles Saint-Jacques sont des archives du passé. Moi, j'en ai ramassé une que j'ai à la main. On a la radio, nos auditeurs ne peuvent pas la voir. J'ai ramassé pendant mes vacances en Bretagne, Paimpol. Et parce qu'en lisant votre livre, justement, en Bretagne, vous dites que les coquilles Saint-Jacques, rien qu'en voyant leurs coquilles, vous pouvez dire leur âge, parce que leur âge s'inscrit, la marque du temps s'inscrit dans leur coquille. Alors, je vous montre cette coquille très jolie, fauve, ramassée sur une plage à côté de Paimpol. Laurent Chauveau, quel âge a-t-elle ?
D'évidence, elle est en train de vivre sa quatrième année.
Ta quatrième année ?
Oui, c'est-à-dire qu'une coquille Saint-Jacques, quand vous êtes promené, vous avez déjà fait ça, vous promenez en forêt, un arbre a été coupé par un bûcheron, et vous regardez la tranche de cet arbre, vous êtes capable de déterminer l'âge en comptant les alternances de bandes claires et bandes sombres sur une coquille Saint-Jacques, avec la même méthode que celle que vous utiliseriez pour dater ou âger un arbre, vous pouvez déterminer l'apparition de bandes hivernales qui âgent une coquille Saint-Jacques facilement. Celle-là a passé déjà 3 hivers et elle est en train de vivre sa 4e année.
Et ce qui est étonnant, c'est que moi, en lisant votre livre, j'essayais de calculer son âge. Je ne suis pas arrivée toute seule avant que vous ne veniez, parce que je pensais compter les stries. Mais ce n'est pas les stries, c'est vraiment... on voit la petite coquille Saint-Jacques.
Oui.
Et puis, en remontant, elle devient de plus en plus fine. Donc, elle a une croissance... infini ou pas infini, la coquille Saint-Jacques ?
Sa croissance est finie, c'est pour ça que c'est pas,
le
parallélisme avec l'arbre ou l'utilisation de l'image de l'arbre à ses limites. C'est pas un arbre, c'est bien, mais elle dépose quand même de façon concentrique. Hein. On a l'impression d'avoir jeté un caillou dans l'eau et puis d'avoir vu une onde grandir. Ouais. Elle a des stries concentriques, je ne parle pas évidemment des stries radiaires qui ressemblent à des rayons solaires, hein, qui, c'est le symbole de Saint-Jacques de Compostelle.
Le symbole de Saint-Jacques de Compostelle, c'est les rayons solaires.
Oui, ça ressemble à quelque chose qui irradie avec des stries radiaires qui s'en vont s'écartant vers la périphérie. Je ne parle pas de celle-là, je parle bien des séries concentriques qui sont fabriquées à la marge de la coquille Saint-Jacques à chaque hiver.
Et donc, voilà pourquoi elles sont historiennes du climat et elles sont même archivistes du climat, les coquilles Saint-Jacques.
Oui, ça veut dire que l'animal grandit par accrétion. À chaque fois qu'il grandit, il fabrique un petit bout de squelette en plus. Et il se trouve qu'elle a le bon goût, chaque jour, de déposer une marque.
Donc,
je vous ai parlé de la marque hivernale, donc ça, vous avez des années qui apparaissent clairement, mais dans les 3 ou 4 cm qui séparent 2 années, à l'intérieur de cet espace, l'animal fabrique en plus des stries, des micro-sillons, si vous voulez, des micro-vagues, des micro-vaguelettes qui sont visibles à l'extérieur du squelette, visibles à l'œil, visibles même en plongée. Mais l'animal vivant, vous pouvez les voir, et ces stries sont déposées à un rythme journalier.
Ce qui veut dire que c'est une archive, enfin un calendrier extraordinaire pour les chercheurs. Et en plus, les coquilles Saint-Jacques, on en trouve partout, dans tous les océans du monde, pratiquement. Elles survivent à pratiquement tous les climats, et depuis extrêmement longtemps.
Ah oui, alors rien que Pecten maximus, l'espèce qui est consommée en France, cette espèce-là est là depuis 25 millions d'années. Donc, et vous avez raison, c'est un calendrier... une archive, c'est un animal qui marque le temps à différents rythmes, le rythme journalier, le rythme annuel, et on est capable de lire donc des stries. L'écartement de 2 stries consécutives marque la croissance d'un jour. Ouais. Et donc, vous êtes capable, pour un invertébré vivant au fond de la mer, de rétrocalculer la vitesse de croissance journalière des coquilles Saint-Jacques. Si vous êtes capable de le faire sur un individu, vous pouvez le faire sur un groupe d'individus. Et donc, vous avez la moyenne, la croissance moyenne journalière des coquilles Saint-Jacques de la rade de Brest. Si vous êtes capable de le faire un an, vous pouvez le faire 30 ans. Et si vous êtes capable de le faire aujourd'hui, vous êtes capable de le faire il y a 2000 ans, 3000 ans, 25 millions d'années. Ouais. Et donc, c'est déjà, pour l'écologie, une information... vraiment centrale, la réponse en termes de croissance d'un invertébré tous les jours au fond de la mer, c'est pas une information que vous obtenez facilement. Vous voyez, or là, c'est facile à acquérir, même si c'est a posteriori, mais et c'est facile à acquérir et c'est pas onéreux. Et c'est valable sur toutes les eaux du globe, parce que vous avez raison. C'est valable sur les côtes africaines, c'est valable en Afrique du Sud, c'est valable en Australie, c'est valable en Nouvelle-Calédonie et c'est valable au Chili, au Pérou.
Ça reconstitue aussi l'environnement dans lequel elles ont vécu, c'est-à-dire l'état de l'océan à ce moment-là.
Ah, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Après, vous aviez cette idée de « je suis capable de décrire une réponse biologique tous les jours ». Comme cet accroissement est journalier et qu'il est assez imposant, parce qu'on est en train de parler de 300 micromètres, ça paraît pas beaucoup comme ça, 300 micromètres, mais pour un invertébré, faire un millimètre de croissance en 3 jours, c'est déjà pas mal. Mmh. Et surtout, c'est plein de place pour la chimie. C'est-à-dire que vous êtes capable, avec une perceuse de dentiste au départ, maintenant avec des lasers un peu sophistiqués, mais au départ, de façon très bricolage, on utilisait des petites perceuses de dentiste pour récupérer un peu de poudre de ce squelette. Et de cette poudre, des recettes de cuisine vous permettent d'avoir la composition chimique de ce squelette et la composition chimique, notamment historiquement, on s'est intéressé à la température de l'eau de mer. On est capable, avec la composition chimique du squelette d'une coquille Saint-Jacques, on est capable de retracer, de recalculer la température avec une précision de 0,3 degrés. Et comme on est capable de le faire tous les jours, et quand même on est capable de le faire il y a 6000 ans, on est capable de calculer la température de l'eau de mer tous les jours il y a 6000 ans.
Génial, elle nous régale, elle régale les chimistes aussi, les coquilles Saint-Jacques, elle régale nos oreilles, parce que vous avez aussi découvert qu'elles sont musiciennes, les coquilles Saint-Jacques. Allez, on va prêter l'oreille et on va écouter un petit son que vous nous avez fait parvenir, c'est le son de la coquille. C'est le bruit que fait la coquille Saint-Jacques. Alors Hugo, notre réalisateur, a dû rétrécir un peu les blancs entre, mais toutes les...
C'est le bruit que fait une coquille Saint-Jacques. Et en fait, l'idée vous paraît saugrenue et vous dites, Laurent Chauveau, c'est obsessionnel pour comment vient l'idée de placer un hydrophone à côté d'une coquille Saint-Jacques. Déjà, l'idée est venue partager avec, une nouvelle fois avec l'ENSTA Bretagne, une école d'ingénieurs, et quelques ingénieurs acousticiens. Et on était très intéressés, une nouvelle fois, par cette strie et l'Ifremer. Loïc-Antoine avait posé des hypothèses sur le moment de la journée où l'animal fabriquait cette marque journalière. Et on a essayé pendant 10 ans de la filmer, de lui poser des capteurs, de faire plein de choses qui sont du domaine de la torture, et pour déterminer quand dans la journée elle déposait ses stries. Je vous accorde qu'il y a 2 personnes sur la planète qui sont intéressées par la réponse à cette question, mais moi je faisais partie des 2 personnes. Oui. Et donc je me suis acharné à faire ça, et à la fin on s'est dit, mais finalement, comme elle doit arrêter de bouger pour le faire, il y a un moment dans la journée où on doit enregistrer le silence. Et c'est en voulant enregistrer le silence d'un moment de la journée qu'on a commencé à déposer des hydrophones à côté des coquilles Saint-Jacques. Et on enregistre ce son qui est en fait l'eau qui sort d'une coquille Saint-Jacques lorsqu'elle ferme violemment ses 2 valves.
Oui, parce qu'elle respire, enfin, la coquille Saint-Jacques.
Ouais, elle se ventile comme vous bougez les poumons vos poumons, échanger, apporter de l'air frais régulièrement. Elle a besoin d'eau fraîche régulièrement pour s'alimenter et pour respirer. Et elle a ce muscle surpuissant, il est quand même énorme, ce muscle que vous mangez à Noël, hein, par rapport à la taille de l'animal, c'est un muscle qui est vraiment énorme et qui lui permet de se contracter violemment, suffisamment violemment pour faire du bruit.
Autour de la question pourquoi écouter les coquilles Saint-Jacques et jusqu'où vont-elles nous entraîner ? Nouvelle question pour vous, soulevée par le mathématicien et youtubeur Michael Launay, auteur entre autres du grand roman des maths et du théorème du parapluie. À Brest, ça pourrait servir ça. Écoutez, c'est pour vous.
Bonjour cher Laurent Chauveau, j'aurais une petite question sur les coquilles Saint-Jacques, parce qu'en mathématiques, on étudie régulièrement des modèles de proies prédateurs pour connaître l'évolution à long terme des populations animales. Et j'aimerais savoir s'il y a des mathématiques dans l'étude des coquilles Saint-Jacques et comment est-ce qu'elles ont des proies et des prédateurs, et comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça éventuellement dans des équations, dans des calculs peut-être.
Votre réponse, Laurent Chauveau.
En fait, l'homme le plus célèbre et peut-être un des ouvrages les plus célèbres en termes de mathématiques appliquées à la biologie a été écrit par Darcy Thompson, si mes souvenirs sont bons, dans les années 40, et qui s'intéresse exactement à cette question, à la forme. Peut-on modéliser la forme des mollusques ou la forme des cornes d'une gazelle ? Bon, il y avait toute une rafale d'approches par Darcy Thompson, et dans les tentatives françaises de mise en équation, Jean-Marc Guérini a fait... à Brest, d'abord à San Francisco, quand on était en post-doctorat tous les deux, et puis à Brest, depuis maintenant 4-5 ans, on met en équation, enfin pas moi, hein, je suis bien incapable de faire ça, mais mes collègues brestois, dont Jean-Marc Guarini, sont capables de mettre en équation la forme d'une coquille Saint-Jacques. Et c'est extrêmement intéressant de le faire parce que...
Là, c'est vraiment la forme de la coquille.
Ouais, avec une spirale équiangulaire, ça fonctionne bien. On réussit à l'écran à faire apparaître, enfin pas moi, je répète, Jean-Marc Guarini est capable de faire apparaître à l'écran une coquille Saint-Jacques en équation, en n'utilisant aucun repère, aucune mesure directe.
Ouais. Les coquilles Saint-Jacques n'inspirent pas que les mathématiciens, les scientifiques, les biologistes, les écologues, les climatologues. Elles inspirent aussi les artistes. Alors ça, vous y êtes vraiment pour quelque chose, Laurent Chauveau, puisque vous travaillez même aujourd'hui avec des photographes de Magnum. En tout cas, je propose d'écouter la preuve tout de suite avec cette chanson, extraite du dernier album de Miossec, votre voisin brestois, qui a composé ce titre après avoir écouté les coquilles musiciennes que vous lui avez fait découvrir. Nous sommes Miossec et les coquilles sur RFI.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclaboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de
Sommes les yeux vivants, extrait des Rescapés, dernier album de Miossec, chanson que vous avez inspirée, Laurent Chauveau, ou plutôt vos recherches improbables et géniales sur les coquilles Saint-Jacques.
Oui, c'est une rencontre vraiment étonnante avec Christophe Miossec, parce qu'on avait, et qui démontre qu'il est possible d'avoir des activités transgressives à Brest, voyez, de traverser des cloisons, traverser, et c'est assez facile de faire ça à Brest. Une discussion entre... Un scientifique et un musicien se passent simplement après un coup de fil et la discussion dure des heures. Et à l'issue de ça, Christophe Miossec écrit cette chanson. Je trouve ça, à l'échelle de la France, assez improbable, mais d'une beauté infinie.
Magnifique chanson de Miossec. Miossec a rencontré Caroline Fillette pour nous. Elle lui a demandé justement comment est-ce que vous l'aviez inspiré et surtout comment un concept que vous développez aussi, Laurent Chauveau, dans ce livre, le concept de sérendipité, le fait de trouver comme par hasard autre chose que ce que l'on cherche, est le même qui fonctionne pour les chercheurs et pour les artistes. Autour de la question comment écouter les coquilles Saint-Jacques, on écoute Miossec s'expliquer au micro de Caroline Fillette.
C'est la meilleure façon de réfléchir, je crois, en fait. Enfin, c'est de faire d'un exercice intellectuel quelque chose d'amusant, à savoir de faire des recherches tout en restant libre à ce qui peut arriver, quoi. Mais écrire des chansons, c'est un peu pareil. Enfin, on écrit une première ligne et on ne connaît pas la deuxième, en fait. Et surtout, on ne connaît pas l'ensemble des lignes, on ne sait pas ce qu'elles vont donner. Et elles vont peut-être donner un texte qui n'a rien à voir avec l'idée de départ.
Du coup, vous vous sentez assez proche dans votre démarche artistique de la démarche de Laurent Chauveau avec ses recherches, avec ses travaux de recherche.
Ouais, je crois qu'il y a une idée de générosité là-dedans, quand même un peu de Ouais, c'est d'essayer d'offrir au monde un peu ce qu'on a trouvé, quoi, en fait. C'est un petit, c'est un, dans mon cas de figure, c'est un peu prétentieux, mais ouais, c'est un peu. Ça peut la même démarche. Et puis Laurent est, est quand même très musical et même très rock'n'roll, en fait. Donc, il aurait pu jouer dans un groupe. Hein.
C'est vrai. Mais justement, Laurent Chauveau est avec nous en, en studio. Est-ce que vous auriez une question à lui poser, Christophe?
Oui, justement, dans quel groupe aurait-il voulu jouer? Parce que je sais que c'est quelque chose qui l'anime vraiment beaucoup. Enfin, la musique l'accompagne lors de ses recherches.
Alors, Laurent Chauveau, à vous de répondre, parce qu'effectivement, hein, comme le dit Miossec, comme on peut le lire à chaque chapitre de cet ouvrage, la musique, le rock, notamment, vous accompagne, nous ouais. accompagne.
Oui, mais c'est marrant parce que j'ai mélangé assez souvent de l'adolescence à aujourd'hui des écoutes très punk ou très rock, mais j'adore Léo Ferré ou Brassens. Miossec et je peux mélanger le, la minute d'après Miossec avec Thiéphaine ou une énorme quantité de jazz et de blues.
Vous écoutez, vous, vous ouvrez vos oreilles et vous
oui,
écoutez.
Oui, voilà. Et alors, dans le, pour répondre à la question de Christophe, je sais pas, j'adorais, et malheureusement il a disparu, mais j'aurais adoré chanter à côté d'Higelin, mais je suis complètement handicapé de la voix et je suis bien incapable de chanter. J'ai faut la modestie m'invite à dire que ce serait, c'est strictement impossible, ça.
Pourquoi vous tendez vos micros, ou plutôt vos hydrophones, aux Coquilles Saint-Jacques, que vous avez donc découvert? Alors, musicienne, vous dites que ce sont des formidables nageuses et chanteuses.
Oui. Oui, une Coquille Saint-Jacques, ça a le bon goût de nager. Et c'est même une des raisons pour laquelle ça interpelle une partie de la population très non contemporain, parce que elle est vue comme un symbole avec cette symétrie et une esthétique rare. Mais aujourd'hui, on ramène des images du fond de la mer. Et dans les choses qui sont étonnantes au fond de la mer, il y a cette coquille bien paisible, une étoile de mer qui s'approche et cette nage brutale, d'abord un peu désordonnée, puis quelque chose d'assez élégant et puis un animal qui se repose comme une feuille morte à l'automne. Oui.
C'est ça qui vous a impressionné au fond tout de suite dès que vous avez approché les Coquilles Saint-Jacques, c'est le fait qu'elle puisse rester pas placide, calme, magnifique, effectivement symbole de beaucoup de choses. Et puis quand elle s'énerve et quand elle nage, et ben elle y va.
Et elle y va et elle fait du bruit en y allant et finalement ce bruit nous autorise à dire que cet animal était en train de nager, de se débattre, de tenter de s'enfouir à un niveau, de se remettre dans le sable, de se refaire un nid, vous voyez. Et finalement, ce sont ces bruits différents qui permettent de caractériser des comportements. Et finalement, en écoutant les Coquilles Saint-Jacques, on n'est pas loin du concept de sentinelle, comme on écoute les oies du Capitole ou le chien aboyer au fond de la ferme. Cet animal peut renseigner sur quelque chose qui n'est pas normal, vous voyez. Et c'est là qu'apparaît le concept de sentinelle, en l'écoutant ou en étudiant ses mouvements de façon plus généralement. De façon plus générale, on a une bonne idée de son aptitude à goûter l'océan.
Parce qu'elles sont très sensibles, elles goûtent l'océan, elles sont hyper sensibles.
Oui. Et en fait, tellement
à tous les changements.
À tous les changements de salinité, d'oxygène, une petite toxine qui apparaît ou un prédateur en quantité anormale l'oblige à avoir des mouvements valvaires différents. Et donc, elle émet des sons un peu différents. Vous voyez, donc, on s'en va vers des recherches qui essayent de l'utiliser comme une sentinelle, comme quelque chose qui va donner l'alerte.
Révélateur de pollution, aujourd'hui, notamment.
Oui, oui, alors ça, elle a le bon goût d'archiver des informations comme le pétrole de l'Erika contenait du vanadium. Vous allez à Belle-Île-en-Mer, vous pêchez des Coquilles Saint-Jacques qui ont vécu, là maintenant il est un peu trop tard, mais 2-3 ans après l'événement, il était possible encore de récupérer des Coquilles Saint-Jacques qui avaient vécu l'accident de Noël 99, l'Erika, et de déterminer quand le pétrole était passé au-dessus des Coquilles Saint-Jacques, puisqu'il diffusait du vanadium, un élément qui est assez rare dans l'eau de mer et surabondant au moment où il passait au-dessus des Coquilles Saint-Jacques, et elle incorpore cette information dans sa coquille. Vous arrivez 3 ans plus tard et vous êtes capable de déterminer quand, exactement, quel jour le pétrole est passé au-dessus des Coquilles Saint-Jacques. Mais c'est vrai pour, vous allez faire une IRM ici à Paris. Alors imaginons que vous êtes à Brest et vous allez à l'hôpital à Brest. On vous injecte un contrastant dans les veines parce qu'on a besoin d'y voir clair quand on fait des IRM sur vos tissus mous. Ce contrastant, il contient du gadolinium, c'est un terre rare, un métal. Et ce métal-là, vous allez l'uriner in fine dans l'hôpital ou chez vous. Ça finira dans les rivières. De la rivière en mer, les Coquilles Saint-Jacques enregistrent la contamination au gadolinium, qui n'est pas très grave, hein, mais c'est un bel exemple.
Les coquilles Saint-Jacques enregistrent finalement nos IRM. Enfin, le fait qu'aujourd'hui, sur Terre, il y ait des IRM.
Oui, avec Jean-Alix Barra et un médecin de l'université de Brest, nous avons déterminé qu'il était possible de retracer la contamination liée aux IRM avec les coquilles Saint-Jacques de la rade de Brest.
Un vrai couteau suisse, comme vous le dites, ces coquilles Saint-Jacques qui font aussi office de thermomètre. Oui. Enfin, c'est complètement fou. Est-ce que vous imaginiez au début, en commençant ces recherches, donc sur le mode de vie des coquilles Saint-Jacques dans la rade de Brest, que ça vous entraînerait aussi loin, Laurent Chauveau?
Ah, mais pas du tout. J'avais pas cette prétention, deux, pas cette vision. Et pas la possibilité de l'avoir. Cette idée de sérendipité, d'improvisation et de, par contre, se placer en quantité de travail et en lecture dans la situation où on peut récupérer une idée nouvelle, l'incorporer et la faire vivre en termes de recherche. On avait déjà cette attitude à Brest.
En fait, il faut énormément travailler, énormément
d'abord,
consulter, énormément amasser.
Ça ressemble à la musique, ça ressemble à l'art.
C'est ça. Et ensuite, peut-être, on trouve...
À mon avis, c'est Christophe Miossec qui a raison. Il faut, après avoir accumulé une grande quantité de travail et en se lançant à la première ligne ou au premier mois de travail, en se disant, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais j'y travaille. Ouais. L'autre élément qui est important dans l'histoire de la coquille Saint-Jacques de la rade de Brest, ce sont des voyages à l'étranger. En fait, ce qu'on a fait, c'est des allers-retours entre l'Afrique ou la Nouvelle-Calédonie, l'Amérique du Sud ou après les deux pôles. Ces allers-retours entre... on a été pêcher des idées dans des écosystèmes très contrastés par rapport à la rade de Brest.
Pour voir quelle différence, si c'était les mêmes coquilles Saint-Jacques, comment elles vivaient, comment elles s'adaptaient.
Ça, c'était l'idée de départ. Et à chaque fois, on y a trouvé des idées nouvelles. On va en Nouvelle-Calédonie. Julien Thébault, qui faisait une thèse avec nous, payée par la région Bretagne, en Nouvelle-Calédonie, Julien Thébault découvre qu'on peut utiliser le molybdène, un élément chimique qu'on trouve dans l'eau de mer, et qui nous permet de retracer l'évolution des microalgues, du phytoplancton dans l'eau, incorporé dans les coquilles Saint-Jacques. Cette idée-là, elle est née en Nouvelle-Calédonie, on la ramène à Brest et ça nous intéresse beaucoup parce que le phytoplancton, il est très influencé par les élevages de porcs en Bretagne. Vous voyez, et donc, on retrouve avec une question centrale qui est quel est l'impact de l'agriculture intensive sur les côtes bretonnes avec une idée piochée en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, et des idées comme ça, pratiquement toutes sont liées à un aller-retour, un ping-pong entre des écosystèmes africains ou tropicaux et maintenant polaires et la rade de Brest.
Autour de la question, pourquoi et comment justement écouter les coquilles Saint-Jacques sur tous les continents, sous toutes les latitudes, de la rade de Brest jusqu'en dans le fleuve Saloum, tiens donc, au Sénégal. Je propose de faire précisément ce pas de côté que vous aimez faire, ce vu d'ailleurs, pour écouter et parler avec des coquillages dans le delta du Saloum. C'est au sud de la région de Dakar, à l'embouchure du fleuve. Malick Diouf est le directeur de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture, rattaché à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il travaille dans cette région depuis 2006 sur un projet de recherche participative femmes et coquillages. Ça doit vous intéresser. Vous le connaissez peut-être. D'ailleurs, notre reporter Charlie Dupuy a rencontré Malick Diouf à Dakar. C'était pour les 70 ans de l'IRD. Il lui a expliqué comment et pourquoi cette recherche collaborative avec les femmes du delta du Saloum pour préserver justement cette formidable ressource si prisée dans le delta.
À marée basse, les vasières se découvrent et les gens vont chercher les coquillages. Les vasières, c'est des bancs de sable qui sont mis à nu à marée basse. Donc quand les eaux baissent, il y a des bancs de sable qui sont complètement découverts. C'est ce qu'on appelle les vasières. Et comme c'est des populations, les coquillages sont dans le sable, ils sont à ce moment-là que les femmes vont gratter le sable pour chercher ces coquillages.
Ce sont surtout des femmes qui font cette activité?
Il y a une espèce, comme les arches, c'est essentiellement les femmes qui font cette activité.
Ça ressemble à quoi une arche?
Une arche, c'est un bivalve. Ça veut dire que c'est un coquillage avec deux valves. Donc, dont on cherche la chair, comme le pétoncle. Bivalve, ça veut dire qu'il a deux coques qui s'ouvrent par une charnière. Et donc, l'animal vit entre deux coques.
Les arches, donc ces coquillages, sont une ressource qui s'amenuise. Qu'est-ce qui se passe en fait?
Les gens s'adonnent à cette activité parce que c'est rentable. Ils vendent le kilo d'arche séchée à 1000 francs, maintenant ils le vendent à 6000 francs.
Presque 10 euros.
Donc il y a un regain d'intérêt. Donc ça va davantage les gens, les femmes s'adonnent à ça, parce qu'il n'y a pas d'autres activités. Parce que les autres activités, c'était l'agriculture. La salinisation des terres empêche l'agriculture. Donc tout le monde s'oriente vers la mer. Donc la pression est devenue importante sur la ressource. Or que la croissance des arches est très lente.
Est-ce qu'il y a dans la pratique de ces femmes quelque chose qui vous a marqué, qui vous a inspiré?
Les initiatives qu'elles prenaient d'ensemencer. Ensemencer, c'est aller chercher de petites arches dans des vasiers reculés où ce n'est pas pêché, ou bien il faut beaucoup d'efforts pour y arriver, une pirogue, ainsi de suite, etc. Tu fais des kilomètres, ils vont aller dans ces vasières, les récupérer, les ramasser en grande quantité, des petites quantités à une bonne reproduction, et les ramener au bord des villages, dans les vasières qui sont surexploitées, où il n'y a rien, et les laisser grandir. Toujours c'est sur les côtes. Les arches ne peuvent pas vivre au-delà de 4 mètres de profondeur. L'enjeu, c'est de connaître ce que vont devenir ces arches, quelle est la biologie de ces arches, comment elles évoluent, comment elles grandissent. Donc, on a mis un dispositif d'échantillonnage. C'est les femmes qui ont échantillonné. Ensuite, on arrive au de retour des vasières, on se met, on fait les mesures, on fait les pesées, etc. Donc, il faut exploiter de façon durable la ressource, d'où l'intérêt de ces sciences participatives.
Que vous inspire cette recherche participative, ces propos de Malik Diouf recueillis à Dakar par Charlie Dipiau, Laurent Chauveau?
Ça va vous paraître étonnant, mais ça me ramène dans le passé, il y a 10 ans, ou je ne me rappelle plus, il y a 12 ans, où il se trouve que mon laboratoire a comme tutelle l'IRD également. Le directeur de mon laboratoire s'appelle Louis Tito Demoraes, et il est, directeur de recherche à l'IRD, et spécialiste des pêches, notamment dans la zone dont on parle. Et on avait été invité il y a 10 ans par un monsieur qui s'appelait Pierre Labrosse et qui nous a demandé d'aller étudier le banc d'Arguin en Mauritanie. Et on était spécialiste avec mon ami Jacques Clavier du cycle du carbone. Et on a fait une étude longue, assez pénible, le long des flancs du Sahara. Il s'agissait d'aller plonger dans le banc d'Arguin. Ceux qui connaissent la presqu'île d'Iwik, c'est placé entre le Cap Blanc et Nouakchott, hein, donc entre le fleuve Sénégal et Nouadhibou. Ouais.
D'accord.
Il y a un banc qui accueille 4 millions d'oiseaux, hein, peut-être un des plus beaux écosystèmes marins du monde. C'est absolument fabuleux parce que une surface gigantesque, qui doit être pas loin de la moitié d'un département français, découvre à marée basse, et c'est un herbier. Donc vous avez un terrain de foot de 20 km, vous voyez, hein, quelque chose de vert avec des spatules et avec 4 millions d'oiseaux qui se posent et qui mangent là. Et il se trouve que cette arche dont on parle là est présente là et est exploitée sur la presqu'île d'Iwik avec des traces depuis 3 à 4 000 ans avec des activités qui sont quasiment industrielles. Donc il y a des choses qui sont des amas, des poubelles d'activités semi-industrielles, je dis industrielles, et qui datent de quelques milliers d'années, qui est étudiée beaucoup par l'Université de Perpignan.
Des paléo-poubelles, c'est ça.
Et on a étudié ce banc d'Arguin très attentivement et on allait plonger avec Erwan Amis pour déposer des enceintes, des cloches. J'en parle dans ce livre qui me permettait d'avoir une bonne estimation de flux de carbone, des choses qui intéressent la biogéochimie. Et en allant plonger, on se lacère les pieds à Nouadhibou, à Iwik, on se lacère les pieds sur ce bivalve. Il est extrêmement tranchant, dépasse à peine. Imaginez une coque dont les bords, les lames de rasoir, les bords sont en lames de rasoir et dépassent. Donc en allant à l'eau, c'est pas très grave. Quand vous avez passé 3, 4, 5 heures dans l'eau et que vous revenez avec le dessous des pieds bien tendre, vous avez les pieds lacérés par cette arche. Et est venue l'idée de l'étudier. On étudiait les pétoncles en Bretagne, les coquilles Saint-Jacques en Bretagne. On s'est dit, tiens, peut-être que cet animal-là peut aussi nous renseigner. Et il s'avère que... elle dépose des stries. Alors, c'est un peu plus compliqué qu'une coquille Saint-Jacques, mais il faut la découper, la préparer. Et le truc le plus étonnant, ce qui nous intéressait le plus, c'était les transferts de sable. Les vents de sable du Sahara apportent du sable dans la mer, et on a découvert que c'était ce sable qui apportait de l'ammonium, de l'azote, du phosphore et de la silice, les éléments essentiels à la production primaire et au développement des végétaux de ces écosystèmes côtiers. Ce n'est pas de l'eau Classiquement, sur nos côtes et à nos latitudes, ce sont les rivières qui chargent et qui transportent de la terre vers la mer des sels nutritifs. Là, c'est le sable apporté par le vent. Et on a commencé à se dire, mais si ça se trouve, ces bivalves enregistrent les apports de sable ou les tempêtes de sable, comme ils vivent, et qu'à marée basse, ils découvrent certains endroits de la presqu'île d'Iwi qu'il y a jusqu'à 200 kg de sable qui arrivent par mètre carré de plage. Oui, et donc ces animaux sont sous une pluie de grains de sable venant du Ténéré ou du Sahara. Et on a eu l'idée d'aller étudier la chimie de ce sable et de voir s'il n'y avait pas, comme on l'avait fait en rade de Brest, des choses incorporées dans ces fossiles et dans les valves de ces coquillages. Et bingo, ça marche bien. Et c'est le néodyme, un terre rare qui sert de traceur des vents de sable. L'idée d'aller étudier les IRM et la possibilité d'aller chercher des terres rares dans les coquilles Saint-Jacques de la rade de Brest est
venue de Mauritanie.
Oui, quand je vous disais ces allers-retours entre des pays africains ou des pays avec des fonctionnements d'écosystèmes aux antipodes de la rade de Brest. La rade de Brest, elle est sous la pluie de la Bretagne.
Oui, c'est pas le désert du Sahara, c'est pas le désert du Ténéré.
Ouais, le fonctionnement est très contrasté entre ces deux sites.
Je vous propose de rester quelques instants du côté de la Mauritanie pour écouter non pas les coquilles Saint-Jacques, mais une extraordinaire voix, celle de la griotte électrique Nouramine Semali, extrait de son dernier album, Arbina, ça déménage. Nouramine Semali sur RFI, extrait de son dernier album Arbina. On en profite pour saluer nos auteurs et nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent à Nouakchott sur 103.3. Nous sommes en excellente compagnie sur RFI avec le chercheur, plongeur, biologiste Laurent Chauveau qui vient de publier La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan. Autour de la question pourquoi écouter les coquilles Saint-Jacques, nous avons découvert qu'elles étaient musiciennes, historiennes, climatologues, thermomètres, archivistes et j'en passe. Véritable couteau suisse et en plus elles sont délicieuses. Je ne sais pas si vous en mangez toujours, Laurent Chauveau.
J'en mange toujours, il n'y a aucun paradoxe à étudier les coquilles Saint-Jacques et à en manger.
Est-ce bien raisonnable, en tout cas, d'en consommer autant que nous le faisons ici en Occident, notamment autour des fêtes de Noël? Comment les coquilles Saint-Jacques pourraient-elles peut-être nous enseigner un petit peu de frugalité? C'est tout le sens de la question que soulève un autre biologiste, décalé comme vous et comme on aime, Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. On l'écoute.
Moi, je me demande si elle vaut vraiment son prix. Parce que je vois bien quand même que les méthodes de récolte abîment beaucoup, par exemple, les herbiers en Bretagne, les endroits donc où elles vivent et où les méthodes de ramassage raclent des zones extrêmement riches en biodiversité et les endommagent. Et la question, c'est est-ce qu'effectivement on peut manger autant de coquilles Saint-Jacques que ça? Est-ce que c'est soutenable? Moi, j'aime bien les coquilles Saint-Jacques, cela dit. Mais je me pose cette question.
Comment faire et que répondre à cette question?
Je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que je pense que c'est... Je ne pense pas, c'est certain. C'est une des populations d'invertébrés les mieux gérées en métropole. C'est-à-dire que l'Ifremer fait une évaluation de stock et le fait... Euh, je vais, je vais envoyer des lauriers à mes collègues d'Ifremer, mais Eric Fouché et Spiros Fifas, qui ont la responsabilité de la gestion de ces stocks en baie de Saint-Brieuc et en baie de Seine, font ça très très bien, et l'effort de pêche est ajusté. Maintenant, l'histoire des engins traînants, évidemment, reste à discuter. Sur les endroits où on a prélevé la coquille Saint-Jacques depuis maintenant 50 ans, l'affaire est réglée. Hein. Je veux dire, on ne l'abîme pas beaucoup plus aujourd'hui que hier ou il y a 10 ans. Quand on se met à draguer pour la première fois sur un type de fond, quand c'est la première fois, là, évidemment, un engin traînant de type drague, que ce soit à la praire ou à la coquille Saint-Jacques, est extrêmement traumatisant pour la biodiversité. Ça, c'est vrai. Il faut se poser la question et effectivement donner cette information aux gens qui mangent des coquilles Saint-Jacques. Voulez-vous qu'on étende la zone de pêche ou qu'on la réduise ? Ça reste une question de société. Quand on décide, par exemple, en rade de Brest, de commencer à draguer la praire sur des bancs de merle, on a un impact mesuré, vrai. Cette information est fournie.
C'est géré.
Encore capable de pas mal de bêtises. Hein. Je vais le dire gentiment comme ça. On est capable de bêtises.
Donc il faut faire attention, mais on peut continuer à en manger.
Oui. Moi, je pense que la coquille Saint-Jacques, sur le type de fond où elle vit, pas les herbiers. Il y a évidemment des coquilles Saint-Jacques dans les herbiers, mais c'est ultra minoritaire, le dragage dans les herbiers bretons. Je me mets un petit peu en faux avec mon collègue.
Donc, on peut continuer à manger des coquilles Saint-Jacques, on peut continuer à les écouter, ce que vous faites. On n'a pas le temps de parler de ce que vous allez faire du côté des pôles, puisque vous repartez plonger sous la glace et étudier, alors pas seulement les coquilles Saint-Jacques, mais...
On étudie les coquilles Saint-Jacques et en même temps qu'elles, maintenant, avec Frédéric Olivier du Muséum d'Histoire Naturelle, les réseaux trophiques, et on s'intéresse vraiment avec nos étudiants à Brest sur les changements que sont en train de vivre les réseaux trophiques. Le qui mange qui, si vous voulez, sous la glace de l'Arctique et de l'Antarctique.
Et là, on observe
des choses assez dramatiques, y compris avec nos histoires de coquilles Saint-Jacques, on arrive à déterminer qu'à 600 mètres de fond, on a déjà vécu des bouleversements drastiques en profondeur en Arctique.
Déjà aujourd'hui, pour préserver, comme vous le dites dans votre dernier chapitre, le bleu de l'Arctique sans avoir le blues de l'Arctique, on vous propose de revenir bientôt, Laurent Chauveau, parce qu'on n'a pas parlé non plus de tout ce que vous faites autour d'art et science, avec des photographes de Magnum notamment. Merci en tout cas d'être venu partager vos formidables recherches, vos étonnantes découvertes. Je ne saurais trop conseiller la lecture de votre ouvrage ludique, fantastique, drôle et scientifique, La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, aux éditions des Équateurs. C'est un vrai régal. Vous revenez quand vous voulez, Laurent.
Merci mille fois.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster à volonté sur vos applications favorites. Au plaisir de vous retrouver demain en direct avec Hugo Violas à la réalisation, ici en studio, Caroline Fillette en coulisses à domicile et Caroline Lachowski au micro pour une émission martienne. En compagnie de l'astrophysicien Francis Rocard, nous nous interrogerons sur le défi colossal et insensé d'envoyer des hommes sur Mars. Alors que les robots et autres rovers l'explorent si bien, la planète rouge. Faut-il vraiment y aller à tout prix autour de la question « Quelle nouvelle de Mars ?» À demain, merci de votre curiosité, chers amis auditeurs et auditrices. Prenez soin de vous, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI.